Donc, dans ce sixième dimanche, après la Pentecôte, eh bien, l'enseignement qui nous est transmis par l'Église passe par cette épître de saint Paul aux Romains. Et dans cette épître, eh bien, saint Paul revient souvent sur le mot « péché » et sur son usage. Il nous dit que nous sommes morts au péché dans la résurrection et par la grâce du baptême, qu'il ne faut plus être esclave du péché. Et il nous dit un peu plus loin que nous sommes affranchis du péché. Alors, saint Paul ne parle pas du péché comme d'une mauvaise action d'un individu. Il n'en parle pas non plus dans le sens d'un acte coupable et il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Il ne parle pas à l'individu. Quand saint Paul parle du péché, il en parle sous la dimension qu'on pourrait appeler le règne du péché, un état d'esprit du péché, une manière de vivre et de penser. Ce règne du péché, c'est ce qui est lié à notre nature humaine et qui porte sur des aspects négatifs que nous avons en nous. C'est l'orgueil, la colère, l'envie, la paresse, c'est l'avarice, la gloutonnerie, c'est la luxure. Et ce pouvoir du péché dont saint Paul nous parle, eh bien, c'est cette manière de vivre qui nous entraîne régulièrement vers une façon de penser détournée de Dieu. Une façon de penser où nous sommes absents de notre relation à Dieu. Et ce que saint Paul nous exprime, c'est que le baptême est une libération qui est placée en l'homme, parce que dans le baptême, eh bien, l'homme reçoit toute l'histoire de l'humanité. Et le baptême nous place dans la résurrection du Christ, et par cela, il nous place au-delà de la mort. Et la résurrection, elle donne une nouvelle perspective à l'humanité. Elle donne une nouvelle dimension et de nouvelles règles. Si on prend une image, on pourrait dire que c'est à l'image d'une société ou d'un pays qui se dote d'une nouvelle constitution. Eh bien, la façon de vivre, les règles, la vie en société est complètement transformée. Il y a de nouvelles règles, il y a de nouvelles valeurs, il y a de nouveaux objectifs. Eh bien, la résurrection, c'est cette nouvelle constitution qui est installée dans le monde. Et la différence avec le monde terrestre, c'est que lorsqu'une nouvelle constitution est appliquée, eh bien, elle se déroule, elle est avec un certain nombre de choses qui sont imposées, et toutes les règles sont obligatoires. Donc tout le monde les suit. Dans le monde spirituel, avec le Christ, il n'y a rien qui est imposé. Et c'est ça la grande différence. Dieu nous laisse libres. Chacun est libre de faire des choix. Et donc chacun, même si cette nouvelle constitution est proclamée, chacun peut rester dans l'ancienne loi, dans ce monde du péché, comme le dit saint Paul. Et cet homme nouveau, cet homme qui est né dans le baptême, eh bien, il est tiraillé entre différents sentiments, tiraillé entre différentes constitutions, différentes façons de vivre sa vie, de se projeter dans le monde. Et c'est de cela que parle saint Paul. Saint Paul, il critique ses congénères en leur disant « Vous avez été affranchis. affranchi, ça s'adresse donc aux esclaves, et il dit, eh bien, vous êtes un peu comme si les esclaves avaient été affranchis et qu'ils continuent quand même à servir leur ancien maître, comme s'ils ne prenaient pas conscience de cette liberté qui leur est donnée, comme s'ils décidaient de lui tourner le dos. Voilà à quoi saint Paul compare l'humanité des chrétiens et comment il parle de ce peuple des baptisés. Et je crois qu'il a raison dans le sens où nous ne prenons pas pleinement conscience de ce que signifie la résurrection, du message qu'elle nous porte et de la dimension qu'elle donne à l'homme, une dimension auquel pendant des siècles et des siècles, les hommes n'avaient pas imaginé, n'avaient pas réalisé pouvoir accéder à cela. Et donc, c'est saint Paul qui termine en disant « Estimez-vous mort au péché et vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. » Et cette dimension de la prise de conscience, cette dimension du réveil, eh bien, saint Marc, dans son évangile, il va apporter une autre vision complémentaire avec ce récit d'un miracle. Le Christ nourrit une foule, et dans ce récit, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes, beaucoup de dimensions. Tout d'abord, il y a un récit historique avec un miracle, avec Jésus qui s'affranchit des règles terrestres, qui se place dans la dimension de l'esprit et qui nourrit cette foule en multipliant les pains. Et puis pour nous, il y a aussi dans ce texte, superposé à ce récit, il y a un récit symbolique avec des chiffres qui sont choisis par l'évangéliste d'une façon très précise. 3 jours dans le désert, il y a 7 pains, il y a 4 corbeilles, il y a 4000 personnes. Et donc tout ceci a un sens. Alors on ne va pas l'aborder ici, c'est le travail que développe Colette dans les partages bibliques, mais c'est quelque chose d'extrêmement riche pour nous aujourd'hui dans notre compréhension des Écritures et dans ce que tout cela peut signifier. Et ce qui est dit dans cet évangile, c'est que le Christ se fait notre nourriture. C'est une anticipation de l'Eucharistie qui viendra un peu plus tard dans la vie du Christ. Il nourrit cette foule et auprès de lui, on reçoit l'essentiel de ce qui est pour vivre. Et tout d'abord, l'essentiel, eh bien, c'est ce pain qui est donné et qui est distribué. C'est pas n'importe quoi qui est distribué. Il aurait pu multiplier des légumes, il aurait pu multiplier des herbes comestibles qui étaient autour. Non, il choisit le pain. Parce que le pain, il a une dimension particulière, on le dit parfois dans les célébrations, le pain, il est le fruit de la terre et il est le fruit du travail des hommes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce pain qui nous nourrit, c'est pas n'importe quoi. Et ce pain, eh bien, c'est aussi ce qui constitue la base, le support, le démarrage de l'Eucharistie. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Eh bien, derrière cela, il y a aussi la parole. Parce que dans un autre évangile, il est dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que sont venus chercher ces gens avec le Christ dans le désert, à marcher si loin de leur maison ? Eh bien, ils sont venus chercher cette parole. Ils sont venus chercher cet enseignement. Ils sont venus écouter ce que le Christ avait à leur dire de nouveau, de vrai, de véritable, ce qu'il avait à poser comme parole vivante sur les Écritures. Parce que les gens les connaissaient, les Écritures. Ils allaient au temple, ils suivaient les préceptes de la religion juive, et donc ils connaissaient cet enseignement. Mais ce que le Christ fait, c'est que le Christ vient parler et rendre vivante cette parole. Il vient mettre des mots qui deviennent d'un seul coup quelque chose comme une présence auprès des personnes, une présence vivante qui rend cette loi, qui rend cette écriture comme une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle que les hommes viennent chercher auprès de lui, eh bien, elle est aussi importante que la nourriture terrestre. Et donc cette messe, à travers ces deux textes, eh bien, elle nous dit comment construire une autre vie, comment concrétiser notre baptême, comment rompre avec cette règle du péché et comment bâtir un monde qui soit vraiment vivant, véritablement vivant, avec de la plénitude, avec de l'absolu, avec une fin qui est définitivement rassasiée, avec une vie qui touche enfin à l'essentiel. Et dans le message qui nous est donné, eh bien, c'est de chercher et chercher encore à travers les Écritures qui sont la parole de Dieu, eh bien, chercher sans fin cet essentiel, cette plénitude et cet absolu. Trouver la paix, la pureté du cœur, la miséricorde, la justice, les larmes, la mansuétude, la pauvreté en esprit, toutes ces vertus, comme les dénomme l'Église, vertus qui viennent de l'Esprit-Saint, parce que tout cela traverse pour nous, à travers la force agissante de Dieu dans le monde, et cette force agissante de Dieu dans le monde, eh bien, c'est la force de l'Esprit-Saint. Parmi nous, depuis la Pentecôte, parmi nous, parmi le monde, depuis la première Pentecôte, est réactivé dans le cœur de tous les chrétiens à chaque année, à chaque Pentecôte. Et c'est à travers l'action de cet Esprit-Saint, se mettre en accord avec lui. L'Esprit-Saint, c'est la dimension troisième de l'homme, la dimension qui vient couronner celle du cœur et de l'âme. Eh bien, rentrer dans cette dimension de l'esprit, y adhérer et se servir, s'appuyer sur la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui nous permet de construire notre vie et de venir un peu plus chaque jour auprès de cette vérité vivante qu'est le Christ. Amen.